rejoint sur votre chemin. Chemin qui n'est pas toujours facile. Heureusement qu'on a une petite fenêtre dans le ciel. Vous savez que l'arche de Noé n'avait qu'une fenêtre. Ne me posez pas trop de questions sur l'arche de Noé, c'est compliqué. Comment ils pouvaient tous tenir dans cette fosse aux lions ? Une fenêtre. Mais pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours un petit débouché sur Dieu. Qu'on ne soit pas à vivre, manger, dormir, s'amuser, mais qu'on ait aussi une ouverture sur l'au-delà de Dieu. Eh bien, mes amis, je vais vous inviter à ouvrir la fenêtre. On va prier quelques instants. On va se lever, symbole de notre respect, de notre attente. Quand on attend le train, on ne dort pas sur le quai, on est debout, les valises à la main. Et moi, là, avec vous, je suis debout, la valise à la main, pour dire « Seigneur, donne-nous ». Nous voulons parler sur la prière ce soir, Seigneur, car c'est le chemin que tu nous as tracé pour aller vers toi quand nous sommes bousculés, dans la souffrance, abandonnés, trahis même. Nous avons toujours un recours, une porte ouverte, une fenêtre ouverte, c'est la prière. Permet que nous recevions donc ton instruction. Bénis chacun de nous ce soir, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous l'avons déjà fait il y a 2 semaines, mais pardonnez-moi, on va recommencer la même lecture, mais avec d'autres paroles, la même lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, et nous reprenons le Notre Père, que tout le monde connaît. Mais on va commencer à Matthieu, chapitre 6, verset 6, un petit peu avant. Quand tu pries, ça veut dire que tu pries certainement, mais je m'attends à ce que tu pries. Le Seigneur doit nous dire ça. Je t'attends, j'attends que tu pries. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Nous dirions, pas de blablabla. Soyons clairs. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Là, vous connaissez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons médité sur ces quelques paroles il y a 2 semaines. Nous continuons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, je reprends l'ancienne version protestante, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. On peut dire un mot sur le Notre Père ? Il y a 2 parties, hein, vous l'avez ressenti. D'abord une partie tournée vers Dieu, je dirais les intérêts de Dieu, sa parole, sa nature qui nous fait connaître, son règne, sa force, tout ce qu'il est. Mais on y participe parce que Tout ce que Dieu est, ça nous intéresse. Parce qu'on deviendra comme lui. On aura quelque chose de la nature de Dieu, comme l'enfant a quelque chose de papa et de maman. Et puis, il y a nos intérêts. Alors là, le pain, le pardon, ça veut dire forcément qu'on a mal fait quelque chose. Et puis, la tentation. Et puis, le mal. Donc ça, ce sont nos intérêts à nous. Et Dieu, il participe. Il est là pour nous aider. Cette prière, voyez-vous, elle éduque notre cœur. Sinon, on partirait dans toutes sortes de prières. Donne-nous du beau temps ce soir, donne-nous du beau temps demain matin, donne-nous de gagner le gros lot. On partirait dans tous les sens. Cette prière, elle nous éduque. J'ai l'impression que Dieu semble nous dire, voici le vrai chemin, marchez-y et vous trouverez Dieu. Les pères de l'Église, il y a des siècles, dont Tertullien, disaient que le Notre Père, c'est un abrégé de l'Évangile. Tout l'Évangile est là, dans cette prière. Avez-vous remarqué que cette prière, elle commence aux cieux, Notre Père qui est aux cieux, très haut, et elle finit très bas, délivre-nous du mal ou du malin. Donc, tout au fond de nos cœurs, il y a comme une descente de Dieu qui est dans les cieux et qui descend pour rencontrer votre plus grand problème, bien sûr, le problème du mal. Et nous y participons. Ce n'est pas un sauvetage avec des gens anesthésiés, des ballots qu'on transporte ici et là. On y participe puisqu'on le demande à Dieu, puisqu'on prie Dieu. Et quand on prie, on participe à ce que Dieu fait. Je trouve que le Notre Père nous permet de voir clair dans ce qu'il faut demander. Ça nous permet de faire le tri dans nos besoins, de savoir où sont les priorités, ce que Dieu veut nous donner. Je crois que la prière, c'est le plus grand pas de l'homme, pas sur la lune, sur la terre. Bon, on y va ensemble ? Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Quel pain ? Je ne parle pas des variétés de pain, pain aux céréales, pain au seigle, non, pas ça. Quel pain ? Dieu nous donne-t-il du pain comme il a donné la manne aux enfants d'Israël pendant 40 ans ? Il n'y a plus qu'à ouvrir la bouche le matin à l'aube. Et le pain tombe. Ou est-ce que ce n'est pas un autre pain dont nous avons besoin? Le pain de son amour, qui est rassurant. Le pain de son pardon, qui nous libère. Le pain de sa présence en nous, qui nous tient fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand même, dans l'Épître aux Philippiens, il est dit « en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Ça veut dire « quand j'ai faim, j'ai le droit de demander à Dieu du pain. » Cette parole de l'Épître aux Philippiens « en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu », Dieu va répondre. « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Il n'est pas dit le pain de Dieu, mais la paix de Dieu. Ça veut dire que dans toutes les tourmentes de la vie, ce que Dieu nous assure absolument, sans défaillance, c'est une paix qui va tenir nos cœurs et nos vies tranquilles au sein des épreuves. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus sur cet ami qui frappe à la porte de son ami la nuit ? Prête-moi 3 pains. Je n'irai pas vous déranger pour un morceau de pain. Je pense que je peux me passer de pain une soirée quand même. Prête-moi 3 pains. Puis cet ami qui ne veut pas répondre, il est grognon, il n'est pas facile, nous sommes au lit, ne nous dérange pas. Puis finalement, il finit par se lever. Puis il leur donne du pain autant qu'ils veulent. Alors Jésus continue en disant, ben vous, allez-y, cherchez, frappez, on vous ouvrira. À combien plus forte raison, avec vous, le Père Céleste vous donnera pas le pain, le Saint-Esprit. Je pense que Dieu a quelque chose de supérieur à nous donner que du bon pain tendre qui est pourtant nécessaire à notre vie. Donc, pas demander n'importe quelle nourriture. Alors, si nous pensons que Dieu doit nous donner à manger chaque jour, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Attention à ce que vous dites. Que penser des peuples qui meurent de faim? Allez-vous dire que Dieu les a oubliés, que Dieu ne s'intéresse pas à eux? Ou alors que ces gens-là sont des gens épouvantables qui ne méritent pas de manger? Faire attention. Devant une belle assiette pleine, parfois on fait la prière et c'est très bien. Et on pense que c'est tout à fait naturel que nous ayons beaucoup à manger et on ne pense pas toujours que certains n'ont rien à manger. Et quand on dit eh bien, que nous prions, donc nous mangeons, alors la question que je pose, Dieu peut-il faire que personne ne manque de pain? Dieu peut-il faire qu'il n'y ait jamais de mal sur la terre? Parce que quand on demande du pain, on demande la vie. Le pain, c'est la vie. Dieu peut-il faire que sur la terre, il n'y ait jamais de souffrance? On demande, on reçoit. Mais dans ce cas-là, c'est compliqué, hein, parce que les peuples qui manquent de tout, c'est triste. Ces peuples qui manquent de pain, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement leur dire, écoutez, on vous envoie par avion des petits papiers, et sur ce petit papier, il y a le Notre Père, vous allez faire la prière, et vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'avec ces peuples, nous avons une part de responsabilité. Et je pense qu'il faut faire attention, je marche sur des œufs en vous disant, si nous pensons qu'il suffit simplement de demander et que Dieu donne toujours, donne-nous notre pain, je pense que nous posons une question très compliquée. Parce que on a remarqué déjà que des enfants sont morts de faim sans avoir commis aucun mal, ni eux, ni leurs parents. Donc, la réponse, elle est autrement. D'ailleurs, quand Jésus parle de pain, j'ai l'impression qu'il parle souvent de pain supérieur. Pas le pain du boulanger, mais le pain qui donne la vie au monde. Un pain qui nourrirait notre esprit, qui nous donnerait de l'intelligence, qui nous donnerait des forces intérieures, du courage, de la bonne volonté, de l'immortalité. J'ai l'impression que Jésus, quand il parle de pain, il parle de ces grandes qualités-là que le pain du boulanger ne peut pas me donner. Vous vous rappelez au désert, quand le diable disait à Jésus qui jeûnait, qui avait faim, « Ordonne que ces cailloux deviennent des pains. » Et Jésus, qu'a-t-il répondu ? « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc pour Jésus, il y a un pain supérieur, c'est la parole de Dieu. Alors il y a un mot dans cette histoire, il y a un mot qui nous a emmêlé les pieds depuis déjà longtemps. Notre pain quotidien, c'est ce que vous dites dans votre prière ? Donne-nous notre pain, qu'est-ce que vous dites? De chaque jour ou quotidien, c'est pareil. C'est Saint Jérôme, je le respecte, il a traduit la Bible en latin, la Vulgate. C'est Saint Jérôme, ben c'est lui, c'est de sa faute. Il a trouvé un évangile de Matthieu écrit en hébreu. Et puis, dans l'hébreu, il a trouvé le mot quotidien. Mais les évangiles, la langue des évangiles, depuis 2000 ans, c'est le grec. Et en grec, c'est pas quotidien, c'est le pain qui est au-dessus de tout. Ah, ça change tout. Donc, notre Père qui est aux cieux, donne-nous le pain qui est au-dessus de tout ce qui existe. Voilà. Et le grec est clair. Hein. Le pain au-dessus de tout ce qui existe. Donc, ce n'est pas du pain matériel. Donc, c'est du pain supérieur. C'est le meilleur pain. C'est le pain de Dieu. C'est le pain que seul Dieu peut nous donner. Notre Père, donne-nous le pain supérieur. Mais dites-moi, il y a des gens qui mangent très bien et qui se suicident. Il y a des gens qui mangent bien et qui sont esclaves d'une dépendance, d'une maladie. On a besoin d'avoir une nourriture dans notre âme, dans nos pensées, dans nos forces, qui dépasse ce que les médicaments et ce que le monde nous donne. On a besoin de ce pain supérieur. Donne-nous le pain qui est au-dessus de tout. Ça va ? Ensuite, pardonne-nous nos offenses. Ah, le pardon, c'est le centre de l'évangile. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie. C'est pareil dans un couple, dans une famille. C'est vrai dans toute société. Quand on ne pardonne pas, on finit par se dévorer les uns les autres, à se manger. Pardonne-nous. Alors, il y a deux pardons. Pas le grand et le petit, non. Le pardon de Dieu que nous recevons et le pardon que nous donnons aux autres. Il y a deux pardons. On le reçoit, on le donne. L'apôtre Saint Paul, il a bien dit ça. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien. Puisque vous avez été pardonné, pardonnez aux autres. Pasteur, est-ce qu'il faut que je pardonne aux autres pour que je sois pardonné moi ? Comme une condition. Je te pardonne si tu pardonnes aux autres. Ah. Ça veut dire que tout dépend de moi. Si je pardonne, donc Dieu va me pardonner. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera jamais. Ouh là là, c'est compliqué. Dans la Bible, on ne regarde que la Bible. Il est écrit « Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a pardonné le premier. C'est lui qui a fait le premier pas alors que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. » C'est écrit. Mais c'est vrai que quand on lit l'Évangile, on a l'impression que Dieu pardonne si nous pardonnons aux autres. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Moi, je crois que ça veut simplement dire « pardonne nos offenses » parce que nous, nous savons aussi pardonner aux autres. Parce que si on est pardonné par Dieu, on est forcément transformé. Dieu nous a enlevé les ombres, la peste qui est au fond de nous, le mal, le péché, les désordres, les rancunes, tout ça. Il nous a enlevé tout ça. Donc, on a une fraîcheur de vivre, on a une souplesse, on a une capacité de pardonner aux autres. Ça devient un devoir. Tu es propre comme tout, tu es pardonné, pardonne aux autres. C'est plus qu'un devoir, c'est un pouvoir. Je vous cite simplement, comme cela, un verset de l'évangile de Jean, chapitre 20. Si vous pardonnez, Dieu pardonnera à ceux qui vous ont fait du mal. Si vous leur pardonnez, le Seigneur leur pardonnera. Écoutez bien, Jean chapitre 20. Si vous leur pardonnez, le Seigneur leur pardonnera. Si vous ne leur pardonnez pas, le Seigneur refusera de leur pardonner. Ouh. Ah, intéressant. Si je ne pardonne pas, ils n'ont pas de pardon. Rassurez-vous, la miséricorde de Dieu est plus grande que votre manque de pardon. Et je crois que si même vous ne leur pardonnez pas, le Seigneur, dans sa grande bonté, leur fera grâce. Mais il leur pardonnera à plus forte raison si vous, vous leur pardonnez. L'apôtre saint Paul disait dans une église où il y a eu quelques problèmes, « Si vous pardonnez à ces gens, je pardonne. Si vous pardonnez, je pardonne. » Je crois que Dieu dit ça. « Si vous pardonnez, je pardonne aussi. » C'est un pouvoir. Pas rien que le pardon. Dans les couples, dans les familles où il n'y a pas de pardon, c'est la tension. C'est la guerre. Et les blessures n'arrêtent pas. Donc ça veut dire inutile de, que vous demandez à Dieu de vous pardonner si vous ne faites rien. Si vous restez méchant et fermé. Il faut pardonner. Quelqu'un parfois me disait... Est-ce que je peux me pardonner à moi-même? Est-ce que je peux me pardonner? Pardon, il vient de quelqu'un d'autre. Il ne vient pas de celui qui a fait le mal. Il vient d'un autre. Moi, je dis plutôt, je te prie de me pardonner, moi. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir d'enlever le mal que j'ai commis. Il est commis, il est commis, il est là. Et pour l'effacer, c'est toi qui peux le faire, pas moi. Alors, je reviens, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Qui est le premier, le pardon de Dieu ou le pardon des hommes? Qui commence à jouer? Nous, on pardonne ou c'est Dieu qui pardonne? Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pardonnons parce qu'il nous a aimés. C'est un double mouvement. Je pardonne, tu me pardonnes. Tu me pardonnes, je pardonne. C'est un double mouvement. On ne reste pas couché dans notre lit toute la journée en disant « Seigneur, pardonne-moi mes bêtises ». Il faut participer, prendre conscience. Et en avant, et on continue. D'accord? Ne nous soumets pas à la tentation. Oh, ça va? Vous êtes bien assis? Ouf! Ça posait des problèmes. Ne nous soumets pas à la tentation. Le verset a été changé, je vous le dis rapidement. La question, Dieu peut-il nous envoyer le mal pour nous faire tomber? Pour nous faire du mal? Ne nous soumets pas à la tentation. Ce verset, moi je l'ai lu et je l'ai récité des milliers de fois. Dieu ne peut pas nous faire du mal, il ne peut pas nous tenter, nous tester, nous mettre à l'épreuve en jouant avec le péché. Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas nous faire du mal parce qu'il est amour de A à Z. Alors comment faut-il comprendre ça? Bon, on y va doucement, c'est pas très long. Ça fera pas mal. Dans le grec, encore une fois, pardonnez-moi, le mot « tentation » et le mot « épreuve », c'est le même mot. Tentation, épreuve. Quand il y a une épreuve dans une maison, dans une vie, il y a une tentation. Comment ça? Bon. Si vous êtes dans un moment de santé difficile, ou avec un enfant qui tourne mal, etc., si vous êtes dans une épreuve, une difficulté, il y a une tentation qui vient. Baisser les bras, par exemple. Douter de Dieu. En vouloir à Dieu. Je continue. Ne plus croire en Dieu. Comme me disait une dame une fois, j'y croyais avant, maintenant j'y crois pas. Il y avait un Dieu autrefois, il n'y a plus de Dieu. La tentation. Tentation qu'on peut rayer Dieu de la carte. Si une épreuve venait de Dieu, si des choses difficiles venaient de Dieu, il ne faudrait pas les changer puisque ça vient de Dieu. Mais justement, il faut lutter contre la souffrance. Il faut lutter contre ces moments de tentation. Seigneur, excusez-moi, je redis ça, mais j'y crois pas comme ça, ne nous soumets pas à la tentation. Soumettre. Encore une fois, ah ouais, pardonnez-moi, hein, c'est un verbe grec, décidément. Exactement, le mot en grec ne me fait pas entrer quelque part, ne me fait pas entrer. C'est le même mot quand on a amené le paralytique, vous savez, à Jésus par le toit, et on l'a fait entrer dans la maison. C'est le même mot. C'est comme si on disait, Seigneur, ne me laisse pas entrer dans cette maison, ne me laisse pas entrer dans la tentation, dans l'épreuve. Parce que si je suis entré, je vais être comme un lion en cage, ou plutôt comme un pauvre malheureux dans une cage à lion. Je suis entré. C'est comme un film de Charlot qui jouait plus ou moins avec un lion. Il a réussi à rentrer dans sa cage, mais le lion était dans la cage. Et parfois, on joue avec le péché et on se retrouve enfermé dans la cage. Avec le lion, le diable, ouais, c'est sérieux. Le lion, ça peut encore aller, le diable, c'est beaucoup plus grave. Alors, si je dis au Seigneur, Seigneur, ne nous laisse pas entrer, je prends conscience que je suis pas costaud, je suis faible. Et avec le péché, je ne fais pas le malin, je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas le maître, donc ne me laisse pas. J'ai conscience de mon impuissance, j'ai conscience de la force du péché et du mensonge de Satan qui joue bien là, avec ceux qui rentrent dans la cage au lion. Alors, quand on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation », Seigneur, il y aura des tentations, parce que c'est pas possible que sur la terre, tout à coup, on ne soit plus tenté, puisque notre vie sur terre, c'est être mis à l'épreuve de la tentation, comme Adam et Ève. Mais quand je dis ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire laisse-nous une porte de sortie. Ne nous laisse pas dans la cage pendant 30 ans. Ouvre-nous un passage, comme la mer Rouge. Ouvre-nous un chemin afin que nous restions forts avec toi et pas anéantis, perdus. Laisse-nous un passage pour sortir. Ne nous laisse pas enfermer. Il y a des tentations qui enferment les gens. Ils sont dépendants du mal. Ils aiment la violence, encore de la violence. Seigneur, ferme cette porte-là. Ça va ? Presque fini, hein ? Mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. D'ailleurs, toutes les églises catholiques, protestantes, orthodoxes, toutes les églises ont changé ce verset qui n'était pas bien traduit. Ce n'est pas de la faute de personne. C'est de la faute de nos premiers traducteurs. Puis on s'est fié à ce qu'ils avaient dit, Saint Jérôme. Et puis on a continué pendant des siècles à dire « ne nous soumets pas ». Voyez-vous l'importance d'une traduction fidèle. Alors, toutes les églises chrétiennes de notre temps ont changé et elles ont dit « ne nous laisse pas entrer ». Et ça marche bien, ça va, je sens que c'est parti. Mais délivre-nous du mal. Je termine. Ben, c'est l'explication de « nous laisse pas entrer en tentation » parce qu'il y a le mal, justement, « ne nous laisse pas entrer, délivre-nous ». On est aspiré parfois, aveuglé, l'esprit voilé. Seigneur, délivre-nous du mal. Alors faites attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais aucun mal sur la terre. Ça ne veut pas dire que la terre va devenir un paradis, mais Seigneur, libère-nous du mal. On y passe dans le mal. J'ai remarqué dans la Bible que l'action de Dieu, elle n'est pas tellement montrée comme agissant sur le mal lui-même. Parfois, j'ai rencontré des chrétiens qui disent « Ah, je prie pour que le diable n'existe plus. » Priez si vous voulez, mais il y a un temps pour ça. Je prie pour que le diable soit tué, comme Goliath. L'action de Dieu n'est pas sur le mal lui-même, mais sur le croyant. Dieu nous garde dans le mal. La foi, ce n'est pas dire que Dieu va enlever tout le mal du monde. Bien sûr, on le voudrait, évidemment. On ne voudrait plus qu'il y ait d'enfants malades, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de chagrin, qu'il n'y ait plus de larmes. Oh, bien sûr, mais ce temps-là arrive. Il n'est pas encore là. Ce que Dieu veut nous dire, il y aura toujours le mal. Vous aurez toujours des troubles. Mais vous pouvez devenir libre et fort par ma présence qui vous tient. Vous connaissez le psaume 23 ? Quand je marche, vous connaissez ? Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ben, c'est, tout est là. Le psaume 23, David, il ne dit pas « Seigneur, enlève cette ombre de la mort, cette vallée, remplis cette vallée de sable avec des palmiers, qu'il n'y ait plus de vallée sombre, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de problème. » Non. Le Seigneur n'a pas dit « Je vais vous transporter sur une montagne de lumière avec une belle terrasse, avec vue sur la mer. » Non. Mais il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. » Je crois que c'est ça, le mystère de Dieu. Tu es là. Mais le mal est toujours là. Mais tu es là. Par conséquent, je suis bien gardé. Nous vieillirons tous à la même vitesse. Parfois, des gens me disent « Ah, je vieillis vite. » Non, vous vieillissez normalement. Mais dans toutes les étapes difficiles de la vie, où l'on perd quelqu'un de cher, où l'on perd des forces, « Je ne crains aucun mal, car tu es là avec moi. » Psaume 23 et le Notre Père. « Délivre-nous du mal, qu'il ne nous empêche pas de continuer dans la joie de suivre le Seigneur. » Je termine. Dernier mot du Notre Père. Vous savez ce que c'est, le dernier mot du Notre Père ? C'est simple. Amen. Bon, je ne vais pas vous parler de « c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Bon, je laisse ce passage-là, mais je termine seulement avec le « Amen ». Amen, ça veut dire « c'est fait ». Que ton règne vienne, c'est fait. Que ta volonté soit faite, ok, c'est fait. Donne-nous notre pain quotidien, ok, c'est fait. Mais qui dit « Amen » ? Qui dit « c'est fait » ? L'apôtre Paul disait « L'amen, le c'est fait, c'est réglé, a été prononcé par Jésus. » Le Notre Père, c'est Jésus qui l'a accompli pour nous, Jésus le Fils de Dieu. En Jésus-Christ, le règne de Dieu est venu. En Jésus-Christ, la volonté de Dieu s'est faite. En Jésus-Christ, le pain de vie nous est donné. En Jésus-Christ, le pardon nous est donné. Oui ou non ? En Jésus-Christ, nous sommes soutenus dans les tentations. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés du mal et du malin. Moi, je vous dis Amen. Ça va ? Vous êtes heureux ? Pas toujours. Mais Dieu est là. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui ont tout l'argent du monde et tous les bonheurs du monde. Ce sont des gens accompagnés. Pas pareil. Accompagnés. Il y a quelqu'un avec eux. On ne le voit pas, mais on sent qu'ils sont portés. Ils ont une joie qui vient, je ne sais pas d'où, la source. Une joie qui est en eux, qui jaillit toujours. il y a une confiance, il y a un bonheur, il y a une espérance. C'est ça, le Amen. Je suis avec toi tous les jours. Ça va aller pour aujourd'hui? Je prie le Seigneur pour vous. Vous voulez bien? Seigneur, nous te remercions pour cette prière, cette échelle entre la terre et le ciel, cette échelle par laquelle tu es descendu d'abord, et cette échelle par laquelle tu nous fais monter vers ton Père. Garde-nous, Seigneur, du mal, oui. Délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas entrer dans des complications et des souffrances qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas utiles pour la vie. Seigneur, donne-nous chaque jour le pain qui nous ressource, le pain qui nous fait dire « Dieu est mon aide », même si les hommes ne font rien pour moi, mais « Dieu est mon aide », même si les êtres humains m'abandonnent, « Dieu est mon aide ». Alors, aide-nous à toujours croire, à toujours prier, à toujours t'attendre, car en fait, le Notre Père peut se résumer en un seul mot, Seigneur, nous t'attendons. Amen.